Et on a le texte ce matin, les souffrances de Job. J'aurais pu aussi l'intituler « Le sens de la souffrance » ou « Pourquoi la souffrance ?» Mais ça tombe un peu pile avec les souffrances que vit le peuple français maintenant, comme peuple, et aussi comme ceux qui sont tout près des victimes. Là. Ça doit être horrible, tout ce qu'il vit actuellement. Pourquoi la souffrance? Et Job a souffert. Job n'a pas toujours compris pourquoi il souffrait. Même de son vivant, il n'a pas tout compris. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne connais pas comment ça se passe au ciel avec lui, mais peut-être qu'il comprend tout maintenant. Bon, si j'ai oublié l'enregistrement, allez-y, là, vous pouvez le partir. Ceux qui connaissent notre fille Myriam Gaudreau, vous savez qu'elle est... Ben, c'est la fille à Marjolaine et moi. On est les heureux parents, c'est notre fille cadette. Et Myriam, elle est très, très malade. Et ça dure depuis quelques années. Et elle a toujours eu à cœur de travailler auprès des jeunes comme missionnaire. Elle travaillait à temps plein au camp Livingstone, camp anglophone. Et depuis 4, 5, 6 ans, elle est malade. Et elle porte une batterie de tests, un après l'autre. Et les médecins n'ont rien trouvé. Sauf qu'elle a une fatigue chronique, mal partout, hyper acoustique, les oreilles, là, ça entend trop fort. De misère à dormir. Ce matin, je me suis levé vers 6h30. Myriam était, la lumière était allumée, Myriam était là. Je lui ai dit, as-tu dormi? Elle a dit non. Elle s'est couchée à 9h hier soir, 9h30. Elle n'avait pas dormi encore. Fait qu'elle a déjeuné. Donc, elle déjeune avant de se coucher, puis elle s'est couchée vers 7h30. Je crois qu'elle dort actuellement. Donc, elle a dû faire le deuil de parce qu'elle n'a plus travailler. Elle, comme en prolongé ou peut-être éventuellement validité au niveau du travail, elle est revenue à la maison. Et pour elle, c'est comme revenir en arrière, régresser. Et elle avait à cœur de servir le Seigneur, mais là, elle ne peut plus le faire comme elle le voulait. Puis là, elle se demande pourquoi. Et on se demande, nous aussi, pourquoi? Mais on n'a pas la réponse. La chose qu'on sait, c'est que Dieu est souverain. Et Dieu est au contrôle de tout. Dieu nous aime. Et c'est ça qui nous réconforte. Et à travers tout ce qu'on vivait, bon, j'ai lu un livre sur la souffrance. Et le chapitre d'un livre qui parlait de la souffrance de Job, ça fait que ça m'a accroché particulièrement. J'avais déjà lu ce livre-là à quelques reprises. Et j'aimerais vous partager qu'est-ce que j'ai appris. Une partie, parce qu'on voit, on apprend beaucoup de choses dans nos lectures, à travers les souffrances de Job. Et lorsqu'on... Vous avez déjà entendu l'expression « pauvre comme Job » et « riche comme Crésus », mais Job était très, très riche. C'était l'homme le plus riche du pays à ce moment-là. Et après son épreuve, il a obtenu plus que ce qu'il avait avant, puis il a vécu 140 ans. Il y a eu encore des fils, des filles et des petits-fils. Donc, lorsqu'on voit Job, on pense juste à la période de souffrance. Mais Job, il y a eu un avant, un après, et Job actuellement est dans la gloire. Si vous voulez, on va prier. Notre Dieu, on voudrait aborder le livre que tu as laissé, le livre de Job, et regarder ce que tu as à nous montrer là-dedans. Merci Seigneur pour nous avoir donné ce livre-là qui a été écrit il y a 3 ou 4 000 ans. Et qui tu avais quelque chose en réserve pour nous aujourd'hui, en 2015, parce que les hommes, les femmes, l'humanité, ça ne change pas. On est pareil, on n'a pas changé. Et Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de se confier en toi. Et on te prie à travers cette méditation, ce message ce matin, que nos cœurs puissent être fortifiés et qu'on puisse s'accrocher à toi, Seigneur, en toutes choses. Amen. Donc, nous allons... Pour comprendre Job, il faut lire des versets. Donc, je vais lire quelques versets, ou une bonne partie de versets, et commenter au fur et à mesure. Donc, on voit bien. Excusez, ma mauvaise manie me moucher. Il y avait dans le pays d'Outz un homme dont le nom était Job. C'était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Donc, le premier verset ici, ça vient mettre la table, savoir à qui on a affaire. On sait où il demeurait, il s'appelle Job, il était un homme intègre et droit, craignait Dieu, s'écartait du mal. Donc, c'était assez rare à l'époque. Okay? Il lui naquit sept fils et trois filles. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Donc, c'était l'homme le plus riche. Et à ce moment-là, la richesse, c'était pas le compte de banque, c'était les choses que tu avais. C'était le bétail, les chameaux et tout ça. Donc, les terres, les serviteurs que tu avais. On continue. Au verset 6. C'est un peu drôle. Or, les fils de Dieu vinrent un jour à se présenter devant l'Éternel. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, les fils de Dieu ici. Je n'ai pas étudié ce bout-là. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ah, Satan est arrivé. L'Éternel dit Satan, « D'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Satan avait fait un tour sur la terre et il avait vu Job. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Ici, c'est Dieu lui-même qui dit à Satan, t'as-tu remarqué? Job, il est intègre et droit. Que Dieu dise ça de quelqu'un, c'est quelque chose. Il craint, il me respecte et il s'écarte du mal. Et qu'est-ce qui me frappe ici, c'est as-tu remarqué? Dieu est content de pouvoir dire à son ennemi Satan, tu vois-tu Job, comment il est, comment il agit? L'as-tu remarqué? Parce que sans doute, Satan, c'est un accusateur. Il doit dire, lui, il n'est pas correct, lui, il n'est pas correct, lui, il n'est pas correct. C'est un accusateur, Satan. Mais Dieu pouvait dire à Satan, lui, là, l'as-tu remarqué, lui? C'est un peu spécial. Hein? L'as-tu remarqué? Donc, Dieu était fier et Job glorifiait Dieu par sa vie. Il me demandait, est-ce que Dieu peut dire la même chose de moi? Est-ce que Dieu dit aux autorités ou aux esprits méchants. Avez-vous remarqué mon serviteur vivant? Avez-vous remarqué ma servante? Mettez votre nom, mon serviteur. Est-ce que Dieu peut dire ça de nous? Je posais la question, puis je me suis dit, pas par moi-même, mais par Jésus. Par Jésus, Dieu peut dire, regarde qu'est-ce que j'ai fait à cause de mon fils qui est mort sur la croix, qui a régénéré Yvan et qui le soutient par sa grâce. Regarde qu'est-ce que je peux faire par Jésus pour Yvan. Donc, oui, par Jésus-Christ, le Seigneur peut dire, « As-tu remarqué? » Ensuite, nous continuons au verset 9. Donc là, Dieu il avait dit à Satan, « T'as-tu remarqué? » Est-ce qu'il l'avait mis au défi? Mais Dieu était fier. Satan répond. Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Donc, Job, il t'obéit, mais ce n'est pas désintéressé, c'est par motif d'intérêt. Verset 10, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, son troupeau se répand dans le pays. » Donc, il dit, « Job, c'est ton chouchou, là, tu l'as béni, tu as donné plein de choses. C'est normal qu'il t'aime, là, puis il continue à t'aimer parce qu'il ne veut pas perdre qu'est-ce qu'il a. » OK? Verset 11, « Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudira en face. » Donc, si tu enlèves tous ses biens, tu vas voir qu'il ne sera plus aussi gentil, Job. Tu vas voir qu'il est comme les autres. Il va te renier, il va te maudire. Donc là, c'est Satan qui dit à Dieu, ton serviteur Job, là, il t'aime juste par intérêt. Enlève-lui ce qu'il a, puis tu vas voir qu'il va te maudire. Verset 12. L'Éternel dit Satan à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. » Seulement, ne porte pas la main sur lui. Alors, Satan se retira de la présence de l'Éternel. Donc, Dieu dit, OK, on va te prouver que mon serviteur Job, il intègre, puis il va continuer dans son intégrité, même s'il n'y a plus rien. Enlève-lui tout ce qu'il y a. Puis, j'ai pas peur. Et, dans les versets 13 à 19, on ne les lira pas, mais on a toutes les épreuves ici qui viennent d'arriver à Job. Ses serviteurs sont tués, les bœufs, les ânes sont enlevés, il y a un feu qui descend du ciel qui brûle, son petit bétail et tous les serviteurs. Il y avait des milliers de chameaux qui ont été enlevés, serviteurs tués. Il y a un vent violent qui a écrasé la maison où étaient ses sept fils, ses trois filles, toutes mortes. Et un après l'autre, des serviteurs qui ont réussi à survivre viennent rapporter ça à Lot. Et quelle est l'attitude de Lot? Imaginez-vous l'épreuve, là. Il n'y a plus rien. Ses enfants, là, 10 enfants morts, tous ses serviteurs, pauvreté extrême. Là, c'est vraiment pauvre comme Job. Réaction de Job. Alors Job se leva, au verset 20, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre et se prosterna. Le fait qu'il déchire son manteau, là, c'est un signe que, or, c'est terrible, une épreuve terrible que je ne sais pas si je suis capable de surmonter. C'est vraiment grave qu'est-ce qui arrive, là. Impensable, c'est incommensurable, là. C'est l'extrême. Quand tu déchires ton manteau, là, il n'y a plus rien à faire, c'est terrible. Donc, même si Job est intègre, puis continue à mettre sa confiance en Dieu, ça ne l'empêche pas d'avoir des émotions et de manifester ses émotions. Et même, tout ça pour dire que quand on, même si on est près du Seigneur, on peut pleurer, on peut trouver ça difficile. On me coupe un bras, hein, je suis avec le Seigneur, ça fait pas mal. Okay? Donc, il y a des choses qui se passent là-dedans qu'on ne voit pas, mais qui font mal. Donc, on peut pleurer, on peut dire qu'on trouve ça dur. Peut-être tout va bien avec le Seigneur, je suis comme sur un nuage. Oui, le Seigneur me soutient, sa grâce me suffit. Sauf que c'est pas facile. Donc, il a déchiré ses vêtements, rasé la tête et s'est prosterné. C'est comme un signe de deuil. Il dit, « Nu, je suis sorti du sein de ma mère et nu, j'y retournerai. » Donc, il devient rationnel. Il dit, « Quand je suis né au monde, je n'avais rien. Puis quand je vais mourir, je n'ai plus rien non plus. » Donc, tout ce que j'avais, ça me vient de Dieu, donc je ne sais pas, je ne mérite rien, ou il ne tenait rien pour acquis. Verset 22, « En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. » Donc, il n'a pas péché, il a gardé une bonne attitude et il n'a pas dit, « Ah, Dieu n'est pas correct, Dieu, de faire ça. » Et le diable avait dit, « Si tu enlèves tous ses biens et ses enfants, il va te maudire. » Mais Job, il a dit que le nom de l'Éternel soit béni, béni. Donc, Job a passé vraiment l'épreuve et continué à bénir le Seigneur. Et Job ne savait pas qu'il y avait des spectateurs, que dans les sphères célestes, il y avait des anges, une domination des esprits, des bons, des mauvais, qui regardaient Job, voir comment il allait réagir. Il pensait que c'était entre lui, Dieu, sa femme, admettons. Les autres étaient tout morts. Il ne savait pas qu'il était comme... C'est une pièce de théâtre, puis tout le monde le regardait, là. Okay? Et que tout le monde le regarderait pendant quelques milliers d'années. Des millions de personnes lisent le livre de Job. Donc, il ne savait pas ça, lui, Job. Et s'il l'avait su, peut-être qu'il aurait dit, « Oh, c'est une raison de tenir bon. » Non, c'était pas ça qui faisait tenir bon. C'était sa relation avec Dieu. Nous continuons. Donc, Job a passé l'épreuve ici. Donc, au chapitre 2 maintenant, versets 1 et 3, même scénario qui se présente. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter. » On a lu la même chose au verset, au chapitre 1. « L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? » Même discours. Il n'y a personne comme lui sur la terre, donc c'était l'homme le plus intègre sur la terre, pas seulement en Orient. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Tu m'incites à le perdre sans cause. Donc il dit à Satan, tu n'as pas raison là, de m'inciter à l'éprouver, mais tu vois, il demeure ferme. Il est vraiment, je peux vraiment dire qu'il me glorifie et il est à la hauteur de la situation. Job, qu'est-ce que Satan lui répond? Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » Donc, tes biens, c'est pas grave, mais quand on touche à notre corps, là, ça devient grave. Verset 5, « Mais étant ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudira en face. » Hop, là, il vient de rajouter une montée d'une grosse coche. Tu as enlevé tous ses biens, ses enfants. Maintenant, touche à son corps. Dans la souffrance physique, je suis certain qu'il va te maudire. L'Éternel dit à Satan, « Le voici, il est en ton pouvoir. » Seulement épargne sa vie. Donc Dieu, il a dit, « Oui, tu peux l'éprouver physiquement, mais tu ne l'as pas. Épargne sa vie. » Ici, on voit que Dieu est plus puissant que Satan parce qu'il peut le limiter. Il l'a limité. Et Dieu est souverain en toutes choses et il a autorité sur Satan. Si Dieu ne limitait pas Satan, là, nous les chrétiens, là, on serait tous détruits. C'est Dieu qui nous protège. Satan ne nous aime pas. Et si Dieu dit « Fais ce que tu veux avec eux », je ne sais pas ce qui se passe avec nous autres. C'est terrible. Donc Dieu nous protège. Et Dieu protège le monde aussi parce qu'il dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Donc il ne fait pas de distinction au niveau des épreuves. Donc, heureusement que Dieu protège parce que le diable aurait détruit le monde depuis longtemps. Donc Dieu le limite, épargne sa vie. Alors Satan, verset 7, se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. C'était vraiment éprouvé. Quelle est la réaction de son épouse? Verset 9, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Donc elle a remarqué que Job était resté ferme, solide, il était encore, malgré sa maladie, sa souffrance, il avait tout perdu, il était encore ferme. Donc Dieu était glorifié par cela. Mais sa femme lui dit, « Oh, je ne sais pas comment tu fais, maudit Dieu et meurt. » Elle lui recommande de faire ce que le diable voulait. OK? Et ici, il était bon de ne pas écouter le conseil de son épouse. Hein? Des fois, il faut les écouter, mais d'autres fois, c'est mieux pas. C'est mieux pas quand il nous demande de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et ça s'applique pour les femmes aussi quand votre mari vous demande quelque chose. OK? Verset 10. Mais il répondit. Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc, il dit, on reçoit le bien de Dieu et on reçoit le mal. Mais à partir d'ici, il commence à penser, oups, le mal vient de Dieu. Il commence à attribuer à Dieu ce qui lui arrive, là, tu sais. Mais, parce qu'il ne savait pas, lui, que ça venait du diable. Il commençait à penser que ça venait de Dieu. Mais on reçoit tellement de bien. Comme nous, des fois, on dit, ah, telle épreuve, mais on oublie de compter les bienfaits de Dieu. Je me coupe un doigt, j'oublie les 9 autres qui me restent. Pauvre moi, il me reste juste 9 doigts. Tu sais. C'est un cadeau, les mains qu'on a, les pieds et tout ça. Est-ce que j'ai tendance à réagir comme la femme de Job ou comme Job dans une épreuve? Peut-être la première tendance, c'est comme la femme de Job. Là, bouh, après ça, le Seigneur nous ramène. Mais l'important, c'est de revenir au Seigneur. Maintenant, il y a les 3 amis de Job qui ont été visités. 3 amis. Donc, 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés, chacun dans son pays. Donc, les morts dans des pays différents. On a les noms ici, Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsoar de Naama. Ils se concertèrent pour aller le plaindre et le consoler. Donc, leur but, au début, c'était un comité de compassion. Aller plaindre Job. Verset 12, « Ayant de loin levé les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent à sangloter, ils déchirèrent leurs manteaux, jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils l'ont pas reconnu parce qu'il était tellement malade, l'ulcère avait tellement déformé son visage qu'il n'était pas reconnaissable. Comme Jésus sur la croix, il n'était pas reconnaissable non plus. Puis eux aussi, ils ont déchiré leurs vêtements en disant, oh, c'est terrible, ça ne peut pas être pire que ça. Qu'est-ce qui lui arrive? » Verset 13, « Ils s'assirent avec lui par terre. Pendant 7 jours et 7 nuits, personne ne lui disant une parole, car il voyait que sa douleur était fort grande. » Donc, Job souffrait tellement que ses 3 amis, pendant 7 jours, 7 nuits, n'ont pas dit un mot. Ils n'étaient pas capables de parler. Ils auraient dû continuer à ne pas parler. Mais ils ont ouvert la bouche. Et les versets 4 à 31, on ne les lira pas, mais c'est un échange entre les amis de Job et Job. Les amis de Job, les 3 un après l'autre, l'accusent, disent que si c'était comme ça, c'est à cause du péché. Et Job se défend. On va regarder juste un au verset 22 qui s'appelle Eliphaz. Eliphaz, il dit, « Hey, c'est à cause de ta piété qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi. » Donc, si tu es éprouvé, C'est-tu parce que tu es pieux? C'est parce que tu es bon? Verset 5. Ta malfaisance n'est-elle pas grande? Tes fautes ne sont-elles pas sans limite? Donc, s'il accuse vraiment Job, tu es malfaisant, tu as des fautes sans limite. C'est vraiment une affirmation gratuite. Verset 6. Quand tu prenais sans cause des gages à tes frères, tu arrachais les vêtements de ceux que tu laissais nus. Verset 7, tu ne donnais pas d'eau à l'homme altéré, tu refusais du pain à l'homme affamé. C'est toutes des choses qui sont fausses ici. Pourquoi il dit ça, je ne le sais pas. Mais il accusait Job de plein de choses parce qu'il disait, ça ne se peut pas que, étant éprouvé de même, qu'il n'y ait pas de péché dans ta vie. Je suis certain qu'il y a de quoi dans ta vie. Puis je veux t'aider. Je vais te guérir. Admets ton péché, puis tu vas guérir. Donc, le comité de compassion s'est transformé en comité d'entraide pour devenir un comité d'accusation. OK? Donc, c'était vraiment... Faisons attention lorsqu'on conseille quelqu'un qui souffre. Et Job, il clame son innocence. Et qu'est-ce qui est paradoxal? Que c'est pas parce que Job est pécheur qu'il souffre, c'est parce qu'il est droit. Parce qu'il est intègre, qu'il souffre. S'il avait été pécheur comme d'autres, il n'aurait pas passé à travers tout ça. Pourquoi la souffrance? Je n'ai pas la réponse. Quelques éléments. Dans l'Ancien Testament, l'épreuve était, c'est vrai, souvent reliée à un péché. Et les gens qui vivaient, qui étaient bons, étaient bénis mutuellement. Et Job était intègre, donc il était béni matériellement. On se souvient, lorsqu'il y a eu le veau d'or, lorsque les gens ont adoré le veau d'or, ils ont été punis. Il y a eu 3000 morts parmi le peuple juif. 3000. Donc, tout de suite, à cause du péché. Et il y a aussi Marie ou Myriam, qui était la sœur de Moïse, qui a été punie aussi parce qu'elle avait parlé contre Moïse. Donc, dans Nombre 12, verset 10, juste 10, il n'y a pas 12, verset 10. La nuit se retira d'au-dessus de la tente, et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche, comme de la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Donc ici, Myriam a été punie de lèpre. Elle a été guérie par après, mais elle a eu de la lèpre comme conséquence de son péché. Et dans l'Ancien Testament, c'est plein comme ça, plein comme ça. Et on peut comprendre les amis de Job qui disaient, « Ah, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, il doit y avoir quelque chose. C'est pour ça que t'es malade. » Et la réponse de la religion traditionnelle, moralisante, c'est, « Tu as une épreuve, tu souffres, il y a un péché à quelque part. Il y a quelque chose à quelque part, là. Il y a quelque chose. Okay? » Dans le Nouveau Testament, Jésus dit que la souffrance n'est pas nécessairement liée à la souffrance. Pardon. Il dit que l'épreuve n'est pas due au péché nécessairement. On va lire un verset ici, deux versets. C'est l'aveugle-né. Donc, Jean 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandaient, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Donc, personne n'était aveugle de naissance. Réflexe automatique, « Qui a péché? » C'est à cause d'un péché qu'il est aveugle. Lui ou ses parents? Donc, eux, ils disaient pas, ça, peut-être que c'est à cause du péché ou pas du péché. Ils ont dit juste, « Non, non, on veut juste savoir qui a péché. » Jésus répondit au verset 3, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Donc, Dieu s'est glorifié à travers cette guérison-là. Et dans l'Évangile de Jean, l'aveugle-né qui a témoigné devant les scribes et les pharisiens de la guérison, Dieu a vraiment été glorifié. Il disait, « Je ne connais pas cet homme-là, mais je sais comment, je ne voyais pas, maintenant je vois. » Et l'aveugle a vraiment glorifié Dieu par la guérison. Donc, c'était le but ici. Aussi, Dieu utilise l'épreuve pour nous corriger. Dans Hébreux 12, versets 7, 8 et 11, au verset 7, on dit, « Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? » Donc, nos enfants, on les corrige pour leur bien, et une épreuve peut être une correction. Je ne dis pas être une correction, mais peut être une façon pour Dieu de nous corriger. Verset 8, « Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous sont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. » Donc, si le Seigneur nous éprouve, nous corriger, ça veut dire, bon, c'est bon signe, on est ses enfants, on n'est pas des bâtards. Verset 11, « Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un fruit paisible de justice à ceux qu'elle a formés. » Donc, la correction, c'est formateur. Ça nous forme, et Dieu utilise ça pour nous former. Et aussi, ça peut être pour nous affermir, donc nous former, mais ça peut être nous corriger, quelqu'un qui s'en va de travail, le Seigneur le ramène. Aussi, nous affermir, on suit déjà le Seigneur, mais le Seigneur veut nous plus près de lui encore, il nous voit encore plus fort. Et Paul ici, dans 2 Corinthiens 12, 7 à 10, nous parle un peu de cela. Parce que Paul avait vu, le Seigneur l'avait enlevé, et il disait qu'il avait été enlevé jusqu'au troisième ciel, il a vu des choses que personne ne peut répéter tellement c'était grandiose. Et à cause de ça, pour pas qu'il soit enflé d'orgueil, on va le lire là, verset 7, « À cause de l'excellence de sa révélation, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour pas qu'il s'enorgueillisse de ses révélations. » Ici, on voit que c'est un ange de Satan. Il y a une certaine similitude avec Job. Hein? C'est Satan ici qui amène l'épreuve. On ne sait pas c'est quoi exactement. Peut-être que c'était ses yeux, selon certains commentateurs. Donc, quelque chose qui le faisait souffrir, qui le limitait considérablement. Et c'est un ange de Satan qui aurait fait ça. Et Paul a demandé à Dieu de l'enlever. Verset 8, « Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit. » Donc, Paul a prié trois fois. Première fois, ça ne marchait pas. Deuxième, troisième. Non, le Seigneur a dit non, on va laisser cette épreuve-là. Cette épreuve-là, c'est pour que tu restes plus humble à cause des révélations que tu as eues. On ne lira pas tout, mais on va aller à la fin. Là. Dernière ligne. Là. Avant, en effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, cette épreuve-là était pour fortifier Paul. Pas le corriger, mais le fortifier. L'empêcher aussi de s'enorgueillir. Donc, ça ressemble à l'histoire de Job où ça l'a aidé à être plus fort dans sa foi, plus de maturité spirituelle dans le combat. Et il y a aussi, dans l'Épître de Pierre, 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous appelait à sa gloire éternelle. Donc, il commence par dire, nous sommes appelés à sa gloire éternelle. Imaginez-vous ce qui nous attend. On n'est pas appelé à l'enfer ou à la perdition éternelle, on est appelé à la gloire éternelle. Je pourrais juste dire ça ce matin, c'est merveilleux, on s'en va avec ça, puis si on avait se rappelé juste de ça, Dieu nous appelle à la gloire éternelle. On peut passer à travers n'importe quoi. Il dit après, « Après que vous aurez souffert un peu de temps. » Oh, pareil, c'est plus pareil, là. Donc, on va souffrir. Un peu de temps. Une heure, deux heures, une semaine, un an, on ne sait pas. Et notre vie, 30, 40, 50 ans, c'est peu de temps par rapport à l'éternité. Et une épreuve peut durer toute notre vie. Et le Seigneur va me dire, ma grâce te suffit, mais c'est rien comparé à l'éternité. Donc après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera, donc c'est formateur ici, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc, encore là pour nous affermir. Une citation ici de M. Timothy Keller dans son livre sur la souffrance, il dit « Dieu permet à Satan de mettre Job à l'épreuve. Pourquoi? Je crois que Dieu savait que Job l'aimait déjà. Toutefois, l'amour de Job devait être purifié d'une façon qui ait un impact positif à travers les âges. La souffrance était permise pour amener Job à un niveau de grandeur. » Il continue, « Les souffrances de Job ne sont ni une punition, ni un châtiment pour un péché qu'il aurait commis. Elles ne sont pas davantage destinées à le corriger. Elles n'ont pas pour but de sensibiliser Job à une quelconque erreur de trajectoire ou de le ramener à la foi parce qu'il se serait égaré sur le chemin de traverse. Selon un auteur, le Francis Anderson, la souffrance de Job apparaît progressivement comme un moyen d'élargir sa vie avec Dieu, donc de raffermir son intimité avec Dieu. Tu sais, on dit ici, le fortifiera, rendra inébranlable. Ce n'est pas par moi-même, c'est dans ma relation avec Dieu, avec Jésus, qu'on obtient cette force-là. Donc, on a regardé, tenté de regarder, pourquoi la souffrance, ce que c'était, ce que ce n'était pas. Maintenant, on va voir comment cette souffrance-là affecte Job dans sa relation avec Dieu. Et Job en finit par penser que c'est Dieu qui envoie l'épreuve. Au verset 6, verset 2 et 4, donc Job ici commence à attribuer qu'est-ce qui se passe à Dieu. Ça dit, verset 1, Job répondit, « Oh, s'il était possible d'apaiser ce qui mérite, et si l'on mettait toutes mes calamités ensemble sur une balance, elles seraient maintenant plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles sont inconsidérées. » Donc, il souffre tellement que je dis des choses, des fois qui n'ont pas de bon sens, mais c'est plus fort que moi. « Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. » Donc, ici, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui l'avait châtié. « Les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Mon esprit en boit le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. » Donc, les terreurs de Dieu, c'est Dieu qui lui envoie ces terreurs-là, ses angoisses. Il est angoissé et se range contre moi. Donc, il ne dit pas que c'est Satan. Il dit que ça vient de Dieu. Et Job, il se demande pourquoi Dieu fait ça. Au verset 10, pourquoi? C'est la grande question. Joël, dans sa prière tout à l'heure, disait ça. On se demande souvent des pourquoi. Donc, verset 10, verset 2 et 3. Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi connaître pourquoi tu me prends à partie. Tu me prends à partie. Prendre à partie, c'est pourquoi tu te mets contre moi, là. Pourquoi tu t'attaques à moi? Pourquoi tu me fais ça, là? Donc, c'est la grande question, hein? Pourquoi? J'ai le droit de savoir. Je souffre. C'est à moi des choses que je cherche pourquoi. Hein? Humainement parlant, j'ai le droit de savoir pourquoi. Verset 3. Te paraît-il bien d'exercer l'oppression, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta lumière sur le conseil des méchants? Donc là, il dit, les méchants, eux autres, ça va bien, et les gens qui sont justes, tu les opprimes. Au début du verset 3, c'est « Te paraît-il bien? » C'est comme, ben, il dit à Dieu, « C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. C'est pas correct ce que tu fais, Dieu. » C'est quelque chose, hein? Job, il n'y a pas juste Job qui fait ça. OK? On entend ça tous les jours. On peut même le penser. « Oh non, Dieu, c'est pas correct ce qui se passe. C'est pas correct ce que tu fais. Pourquoi un Dieu si bon permet ça? C'est pas bien ce que tu fais, Dieu. Te paraît-il bien? » Il pose sous forme de question. « Réponds-moi, Dieu. Penses-tu que c'est bien ce que tu fais? Réponds-moi. » Il commence à être hautain un petit peu. Est-ce que, quand on suit le Seigneur, est-ce que tout devrait bien aller, être jamais éprouvé? On a qu'est-ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui est de plus en plus connu ou prêché là, dans le monde. Et cet évangile-là dit, crois au Seigneur Jésus, il va te guérir, il va te rendre riche, il va régler tes problèmes. Et beaucoup de gens viennent au Seigneur Jésus, pas pour te pardonner de leurs péchés, mais pour avoir une meilleure vie. OK? Et je crois que Dieu est assez puissant pour guérir. Et lors de visites pastorales, j'ai été témoin de guérison. Et je dis bien témoin, parce que je ne me présente pas être un guérisseur. Mais Dieu est capable de guérir. Mais je ne crois pas que c'est ça qu'on doit rechercher. Et qu'est-ce qu'on doit rechercher? C'est Jésus lui-même, notre intimité avec lui, le salut qu'il nous donne. Parce qu'on axe trop sur la guérison, peut-être qu'on va passer à côté du salut, du vrai salut. C'est pourquoi Jésus est venu. Okay? Et lorsqu'on parle d'évangile de prospérité, on prie que, lorsqu'on prie, la personne doit être guérie, on prend autorité sur le mal et sur la maladie. Et souvent, la personne n'est pas guérie. On a vu l'apôtre Paul tantôt qui a prié trois fois que le Seigneur le guérisse, ça n'a pas marché. Dans une autre lettre, il dit, j'ai laissé Trophime malade à Milet, un de ses amis qui était malade. Un moment donné, c'est Epaphras, je crois, qui a failli mourir. Donc, et on ne peut pas dire que si tu n'es pas guéri, tu manques de foi. Et j'ai vu une madame, malheureusement, qui est décédée. Son mari disait, elle avait le cancer. Si tu as la foi, tu vas guérir. Si tu as la foi, tu vas guérir. Et au lieu d'accepter ça, là, jusque dans les derniers moments, là, elle est morte. Je n'ai pas la foi, je ne guéris pas. Ouh! Donc, elle est morte dans l'angoisse. Une chrétienne de longue date. Donc, faisons attention au niveau de ces choses-là théologiques qui sont vraiment importantes. Donc, est-ce que les enfants de Dieu sont plus éprouvés que les non-croyants? Dieu ne fait pas de distinction. Il dit qu'il fait pleuvoir sur les riches, sur les méchants, les bons comme les méchants. Il fait envoie son soleil aussi. Et si Dieu en donnait plein de bénédictions aux chrétiens, tout le monde voudrait l'être, mais pour les mauvaises raisons. Hein? On irait à lui pour avoir, pour être par motif d'intérêt. Et pour montrer que Dieu n'épargne pas les chrétiens ou les non-chrétiens, je suis allé voir ma mère au CHSLD, Centre hospitalier de soins longue durée, en Gaspésie. Et il y avait plein de monde là, 85, 90 et plus. Là, c'était vraiment, c'était leur place. Là. Mais il y en avait un jeune. Monsieur, il avait cheveux noirs, colosse, c'est une chaise adaptée, couché sur le dos. Il ne bougeait pas. Toute seule chose qu'il pouvait faire, je pense, c'est ouvrir la bouche puis parler. Les gens faisaient manger. Je me disais, aïe, aïe, aïe. Cet homme-là, il n'a pas d'espérance. Il n'est pas chrétien. Il souffre. Il attend la mort. Aïe, aïe, aïe. Je me dis, quel privilège d'être chrétien. Si jamais ça m'arrivait d'être comme ça, en étant croyant, on a un avantage. On sait que la souffrance n'est pas inutile. On sait que ça nous rapproche de Dieu. On sait que c'est temporaire, même si ça nous paraît long sur la terre. Ça nous dispose à écouter Dieu, ça nous affermit, ça nous rapproche de Jésus. Donc la souffrance, elle a un sens pour le chrétien. Mais le non-chrétien qui souffre, aïe, 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 c'est difficile. Et la présence du mal et de la souffrance sont une objection majeure pour les gens qui veulent refuser Dieu ou Jésus. Combien vous avez entendu ça de fois lorsque vous parlez du Seigneur à quelqu'un? « Ah, mais si Dieu était bon, ça n'arriverait pas. Si Dieu existait, ça n'arriverait pas. Puis si Dieu existe, j'en veux pas parce qu'il n'est pas juste et cruel. » Combien de fois on a entendu ça? Combien de fois? Mais si Dieu n'était pas là, là, comme je disais tout à l'heure, on se ferait détruire toute la gang. Dieu nous protège. Dieu empêche Satan d'aller plus loin. Et nos enfants ne comprennent pas toujours lorsqu'on les reprend. Pourquoi on leur demande de faire telle chose? Ils ont plein, nos enfants ont des pourquoi. Ils comprennent des fois quand ils ont des enfants. Habituellement, ils comprennent pourquoi. Okay. Aussi, Job, malgré sa souffrance extrême, ne doute pas de son salut. Donc, Job 19, 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Donc, Job, dans sa souffrance, là, il ne comprenait rien. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu faisait ça, mais il savait une chose. Que son Rédempteur était vivant et que c'est lui qui allait avoir la victoire. Il se lèvera le dernier sur la terre. Donc, celui en qui j'ai cru, en qui je m'accroche, c'est lui le vainqueur. Et j'ai déjà vécu quelque chose il y a une vingtaine d'années où je ne comprenais pas Dieu. J'étais vraiment, je ne comprenais pas. Même j'écoutais, dans ce temps-là, c'était des cassettes à ma radio. Là. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. J'aime, là, je chantais. Maintenant, il dit c'est pas vrai. Clic, il a arrêté. Puis là, il dit hey, Yvan, là, wow, là. Oh! Là, j'ai réalisé que je ne comprenais plus Dieu, je n'aimais plus Dieu. Là, j'ai dit, Dieu, j'ai un problème, viens à mon aide. Et ce verset-là m'a aidé beaucoup. Dieu, je ne comprends pas dans quelle situation je suis. Il me semble que ce n'est pas de même ça devrait être. Puis, t'as dirigé de telle façon, puis ça, tu m'as convaincu que c'était ça, mais ce n'est pas ça, j'ai l'air fou. Mais il me disait, tu ne comprendras pas. À un moment donné, j'ai compris. J'ai compris, puis tard, il est arrivé quelque chose. Tout s'est dénoué. Mais, je m'accrochais là-dessus. Mon Rédempteur est vivant. C'est à ça qui est l'essentiel. Ensuite, tu vois, verset 26. « Après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. » Donc, ce que j'ai, là, ça se détruit. C'est pas grave, parce que je vais contempler Dieu, imaginez-vous. C'est lui que moi, je contemplerai. C'était ça son but. Et le fait de contempler Dieu, ça nous transforme à son image. Que mes yeux verront, et non quelqu'un d'autre, mon cœur languit au-dedans de moi. Donc, il avait hâte de voir Dieu. Donc, malgré tout ce qu'il vivait, il s'accrochait à son salut, au fait que Jésus allait revenir le chercher, son Rédempteur. Maintenant, Dieu se révèle à Job. Verset 38. Verset 1. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête. Ici, au milieu de la tempête. On se souvient que c'est une tempête qui a tué les enfants de Job. Ils étaient dans une maison, les 10. Un vent violent envoyé par Satan a détruit la maison. Ils sont tous morts. Ici, une autre tempête. Est-ce que Job a eu peur? Je ne sais pas. Sauf que la tempête ici, elle venait de Dieu. Ce n'est pas pareil. C'est Dieu qui venait. Et la tempête venait de Dieu, ce n'était pas pour le détruire, c'était pour montrer sa majesté, sa grandeur, sa puissance. Dieu se révèle à Job, parce que Job a dit plein de choses, sans connaissance, mais là maintenant, Dieu se révèle à lui, au milieu de la tempête, pour lui montrer qu'il était grand. Écoute-moi, Job, là. OK? Et le mot « l'Éternel », ici, c'est « Yahvé ». « Yahvé », c'est un mot qui est personnel, c'est un Dieu de grâce. Et lorsque l'Éternel a apparu à Moïse dans le buisson ardent, il a dit « Je suis celui qui suis, Yahvé ». Donc, c'était personnel. Verset 2. « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénudés de connaissance ?» Donc, lui, il dit « Tu dis des affaires, là, que tu t'es avancé sur un chemin que tu ne connaissais pas. Tu es allé trop loin. » Verset 3. « Mets une ceinture à tes reins, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Jusqu'à date, c'était Job qui a posé des questions à Dieu. Pourquoi? Là, Dieu dit, c'est moi maintenant qui va poser des questions, puis tu m'instruiras si tu es capable. Verset 4. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? » Déclare-le, si tu le sais, avec ton intelligence. Question pertinente. Tu étais où quand j'ai fait la terre? Qui soutient tout l'univers? Et Dieu a continué ainsi longtemps pour montrer les animaux, le vol de l'aigle, les dragons, les hippopotames. Il a montré tous les animaux avec toutes les caractéristiques, pas toutes, mais quelques-uns, pour montrer combien Dieu avait pensé à tout, puis que Job, dans le fond, c'est un peu comme, c'était un nul comparé à ce que Dieu avait fait. Et c'était pas à Dieu à répondre. Et Dieu lui a montré tout ce qu'il avait fait. Donc, je t'interrogerai. Et Dieu semble sévère ici, mais il n'est pas venu pour juger Job, il est venu pour lui montrer sa grandeur. On se souvient d'Ésaïe, quand il a vu la grandeur de Dieu dans Ésaïe 6. « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures, je suis perdu. » Juste le fait de voir Dieu. Et ça, Dieu se révèle en montrant combien il est grand. Et quand on voit Dieu, selon dans toute sa grandeur, ça nous remet à notre place. Quelqu'un disait, l'humilité, c'est simplement un signe d'intelligence, c'est reconnaître qui on est, pas plus que ça. OK? Il ne faut pas s'en vanter. M. Keller, il disait, c'est la révélation personnelle et intime de Dieu lorsqu'il souhaite une relation d'amour et d'alliance avec quelqu'un. C'est désormais Yahvé qui parle à Job. Et un commentateur a dit, Dieu arrive en majesté. Il lui fait vivre l'expérience extraordinaire de découvrir sa nature. L'apparition de Dieu, aussi majestueuse soit-elle, ne peut être comprise que comme un acte de grâce. Donc, c'est un paradoxe. Dieu il est puissant, infini. Il pourrait nous écraser, mais il nous soutient dans sa grâce. C'est un Dieu personnel. Il est venu dans la personne de Jésus pour nous sauver, se révéler à nous. Et dans la Bible, d'un bout à l'autre, d'un couvert à l'autre, Dieu veut se révéler à l'homme, venir le chercher. Dans Psaume 34, nous lisons « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » L'Éternel est prêt. Le Seigneur est proche de vous. Si vous êtes dans l'abattement, cœur brisé, le Seigneur est près de vous. Et dans Jacques 5, verset 11, si c'est dans l'Ancien Testament, c'est un témoignage qui est rendu à Job dans le Nouveau Testament. « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. » Vous avez entendu parler de la fermeté de Job. Ça vous dit-il quelque chose, ce Job? Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. C'est quoi l'important? La fin. Tu sais, un marathon, une course, là, qu'est-ce qui est important? C'est quand on arrive au fil d'arrivée. C'est la fin qui est importante. OK? Car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Donc ici, on voit que Job a souffert, puis il fait référence à la compassion et la miséricorde de Dieu. Ça ne dit pas, Dieu a laissé souffrir Job, puis tout ça. Non. Dieu est plein de miséricorde. Quand on regarde Jacob, un peu Job, on pense, nous, à la souffrance. Et Jacques pensait, lui, à la compassion et à la miséricorde de Dieu en pensant à Job. Et une chose qui est intéressante et importante, c'est que Dieu ne répond pas aux questions de Job. Dieu aurait pu dire, OK, Job lui attendait une explication. Dis-moi pourquoi. Les amis de Job, eux, ils attendaient que Dieu vienne puis le condamne. Ils attendaient une condamnation. OK? Dieu dit rien. Il dit rien sur les demandes de Satan. Il dit pas à Job, ben, Satan, là, c'est un peu de sa faute, là. Tu m'as demandé de te mettre à l'épreuve, puis je veux que tu le saches, là, tu sais. Puis il n'a pas dit les raisons invoquées par Satan non plus. C'est parce que tu étais bon, intègre, que Satan m'a incité. Job l'a jamais su, c'était ça. OK? Et il aurait pu lui dire, je sais que c'était douloureux ce que tu as vécu, mais ça va fermer ta foi, puis tu vas être une source d'inspiration pour des milliers de personnes pendant 3000 ans à venir. Les gens vont lire ton livre, là, puis ça va vraiment les fortifier. C'est pas ça. Dieu demande à Job de lui faire confiance parce qu'il est Dieu, parce que Dieu l'aime, Dieu veut son bien, et Dieu est souverain en toutes choses. Parce qu'il est Dieu. Une citation ici de Francis Anderson, il dit, « En ne dévoilant pas tout son plan à Job, même après sa réussite, Dieu l'oblige à continuer à marcher par la foi et non par la vue. Job ne voit pas le scénario, il voit Dieu. Il n'a pas vu tout ce qui était passé dans les coulisses. Il voit Dieu. Il est sans doute préférable que Dieu ne révèle jamais à aucun de nous l'intégralité de notre histoire. » Donc Dieu ne nous dira jamais pour toutes les pourquoi. Quand on est éprouvé, Dieu nous en donne des pourquoi, des raisons. Souvent, on les réalise après l'épreuve. Mais des fois, on ne le saura jamais. On va le savoir quand on va être dans sa présence, sous la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Et Job ne voit que le plan d'ensemble, ne voit pas le plan d'ensemble, il voit Dieu. C'est à lui qu'il faut qu'il fasse confiance. Et Job n'a jamais lu le livre de Job, il ne savait pas. Nous, on a cet avantage-là d'avoir le livre de Job, d'avoir « Hey, c'est peut-être comme ça que ça se passe ». C'est encourageant pour nous. Mais lui, il n'avait jamais lu ça, le livre de Job. Okay? Et dans l'historique qu'il avait, ce qu'il connaissait, c'est que tu es éprouvé quand tu es pécheur. Une autre citation de M. Timothy Keller, il dit, « La vie nouvelle de Job avec Dieu ne peut voir le jour que si Dieu ne lui révèle pas la raison de sa souffrance. » Donc Dieu, ne lui disant pas les raisons de sa souffrance, ça faisait qu'il s'accrochait plus à Dieu, il lui faisait confiance. Si Dieu lui avait tout expliqué, il aurait renforcé le besoin d'auto-justification de Job. À la place, cette expérience amène Job à aimer Dieu et à lui faire confiance parce qu'il est Dieu. Il acquiert une force immense et une grande joie. Il n'a plus besoin que tout aille bien pour tenir ferme dans sa vie spirituelle. Donc il n'a plus besoin de tout comprendre, plus besoin que tout aille bien. Tu es Dieu. Je te fais confiance. Dans Deutéronome 29, 29, nous lisons, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. » Vous vous souvenez de certains d'entre vous, de M. Chris Leggett, qui est un missionnaire en Mauritanie. Il est venu ici apprendre le français. La plupart d'entre nous qui étaient ici à l'époque, on l'a connu, c'est un anglophone. Et quand il est allé en Mauritanie avec sa femme et ses enfants, Al-Qaïda, les hommes armés, ont essayé de l'enlever. Il a résisté. Ils l'ont tué. Deux balles dans la tête. Pourquoi? Et il y a Lucien Bédard qui est allé aux funérailles de M. Leggett aux États-Unis. Et le pasteur disait, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais nous, c'est grave, là. Lui, il donne sa vie, il s'en va là-bas. Il aurait pu avoir une autre carrière. Non, il a décidé d'être missionnaire avec sa femme, ses enfants. Il se fait tuer. Se peut-tu? Dieu n'a pas dit que ça n'arriverait pas. Et ça, ça nous montre que Dieu, sa femme est venue par après nous témoigner ici toute transformation qu'il avait eue dans sa vie. Mais c'est quelque chose, Dieu peut le faire, pourquoi pas. Et dans notre groupe vie maintenant, on a eu le plaisir d'accueillir José Bibeau et son mari Luc. Luc Dolbeck. Et Luc, José nous disait qu'elle, à l'âge de 13 ans, elle a eu un accident très, très grave, 13 ans. Et elle a failli mourir. Pratiquement miraculée. Et elle a resté avec des limitations physiques. Et elle disait à Dieu, pourquoi? 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 Et avec le temps, elle s'est demandé, pourquoi je demande pourquoi? Elle nous a partagé ça. Elle m'a autorisé à le faire, à vous le dire. Pourquoi je demande pourquoi? Dieu le sait. Dieu le sait. Donc, ensuite, Dieu a répondu à Job. Non, là, c'est Job qui répondit à l'Éternel, au verset 42. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. » Donc, Job a reconnu que Dieu est tout-puissant, souverain, et que peu importe les questions que je te pose, Dieu, Tu les as les réponses. Moi, je ne sais pas. Qui est celui qui a assombri mes desseins par des propos dénués de connaissances? Là, il se cite, lui. Il cite Dieu qui lui parlait. Là, Job, il dit, « Oui, j'ai fait part, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. » Je crois que c'est peut-être le plus important. Donc, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent. Je ne connaissais pas. Verset 5, on saute le 4. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc, il avait entendu parler de Dieu, maintenant il avait une relation intime avec lui, il l'avait vu. C'est pourquoi je me condamne, je me repens sous la poussière et la cendre. Pourquoi est-ce qu'il se repent alors qu'il était intègre? Mais dans le fond, ça coule peut-être probablement sur son attitude de poser des questions à Dieu. Il se repent. J'ai parlé au début de ma fille Myriam qui était malade. Et la semaine passée, elle m'a dit, « Garde, j'ai composé un petit chant. » Un chant. Ça s'appelait « Things too wonderful for me. »« Choses trop merveilleuses pour moi. » Donc, c'était inspiré de Job 42 et de Psaume 131. Et elle m'a fait jouer ça. « Ah, mais ça tombe bien, je suis vraiment poussé sur Job. » Ça fait que je vais vous le faire écouter. Et je l'ai essayé de traduire en français parce que Myriam a travaillé en anglais, elle étudiait en anglais, ça fait que pour elle, ça venait plus aisément. Donc, c'est « I've tried, I've tried, I've tried. » J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé. « I've tried to understand. » J'ai essayé de comprendre. Un peu comme Job. « Only to realize. » Pour finalement réaliser « It isn't mine to choose. » Que ce n'est pas moi de décider. « So let it be as you have planned. » So alors que ce soit comme tu l'as prévu. Donc, si tu veux mettre le chant, vous pouvez le voir en français en dessous. Voilà. Je l'ai écouté quelques fois pour m'endurcir. Et Myriam m'a demandé pourquoi tu l'écoutes si souvent. Ah. Donc, laisse les choses comme tu l'as prévu, Dieu. Et on se confie en toi. Dans la Bible, mes commentaires de John MacArthur, il résume bien en quelques points le livre de Job. et tout ce qu'on peut en tirer. Je vais vous lire ça. Donc, voici les vérités suivantes. Il se produit dans le ciel des événements dont les croyants n'ont pas connaissance et pourtant ont un impact sur leur vie. Il y a des choses qu'on n'a pas connaissance qui se passent. Ça a un impact sur notre vie. On n'aura jamais toutes les réponses. Deuxièmement, on peut déployer d'énormes efforts pour trouver une réponse aux grandes questions de la vie, mais sans succès. On essaie, mais on ne comprend pas. Troisièmement, les enfants de Dieu peuvent souffrir. Il arrive constamment que l'épreuve frappe les justes, de sorte qu'on ne peut mesurer la spiritualité de quelqu'un aux circonstances bonnes ou mauvaises. Donc, si quelqu'un est éprouvé, « Ah, t'as pété dans ta vie. Ah. » Donc, quelqu'un, ça va bien. « Oh, ça paraît, il est béni, lui, il suit le Seigneur. » On ne peut pas dire ça. Quatrièmement, même quand Dieu semble loin, la persévérance dans la foi est le meilleur recours possible parce que Dieu est bon et que chacun peut en toute sécurité abandonner sa vie dans ses mains, même lorsqu'il semble loin. Cinquièmement, le croyant en proie à la souffrance ne devrait pas s'éloigner de Dieu, mais plutôt se rapprocher de lui afin d'être réconforté par cette communion, même s'il ne reçoit aucune explication. Donc, quand on est éprouvé, si on s'éloigne de Dieu, c'est encore pire. Si on se rapproche, on a consolation, on a sa présence, on a son esprit qui nous console. Sixième et dernier, la souffrance peut être intense, mais elle cessera un jour pour le juste. Et Dieu la bénira avec abondance. Ça peut être très, très, très dur, mais ce n'est pas la fin. Et ça peut durer toute notre vie, mais le Seigneur va nous bénir pour la vie éternelle. Est-ce que vous souffrez? Vous allez peut-être bien dire, question niaiseuse. Hein? Tout le monde souffre. Ouais. Merci, je savais que j'avais raison. Personne n'est épargné par la souffrance. Mais il y a des personnes qui souffrent plus que d'autres. Des personnes qui souffrent, qu'on ne sait pas non plus qui souffrent. Et plusieurs sont arrivés ce matin, peut-être vous, avec un fardeau sur le cœur, une épreuve que vous vivez, soit vous, vos enfants, vos proches, un conflit, quelque chose de lourd. Et quand vous allez partir d'ici, les circonstances n'auront pas changé. Mais ma prière, c'est que vous repartiez et quelque chose de changé en vous. Changez votre façon de voir l'épreuve. Changez votre façon de concevoir la souffrance. Et que vous puissiez concevoir la souffrance comme à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du livre de Job, à la lumière de toutes les promesses de Dieu. Donc, je vous invite à vous confier entièrement dans Jésus, dans sa personne. Mettre vos pourquoi de côté. Pourquoi? Parce que. On sait des fois pourquoi? Parce que. Parce que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus veut vous donner la vie abondante. Jésus est tout-puissant et il fera que l'épreuve qui vous arrive soit une bénédiction pour vous sur la terre ou pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Pourquoi? Parce que vous ne comprendrez jamais totalement pourquoi vous devez vivre cette épreuve. Et le fait que Dieu sache pourquoi, c'est suffisant. Comme il a dit à Paul, « Ma grâce te suffit. » Je vous envoie un mot de prière en terminant. Notre Dieu, on veut te remercier pour... nous avoir donné le livre de Job, qui est un livre qui nous permet de traverser à travers les épreuves, Seigneur, en ayant les yeux fixés sur toi, en sachant que ce qu'on voit maintenant, les épreuves, ce n'est pas la fin. Nous sommes dans le processus, nous sommes dans la course, le combat de la foi. Mais la fin, c'est toi, Seigneur, qui as le dernier mot. Et notre Dieu, je te prie pour toute personne ici qui souffre, incluant moi, Seigneur, que tu nous fortifies et que tu te révèles à nous d'une façon spécial par ton esprit. Fait que Jésus soit vraiment présent dans nos vies, qu'il nous révèle son amour. Et Seigneur, tu demandes rien de mieux que le fait qu'on se décharge en toi, comme nous lisons dans l'épître de Pierre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Merci notre Dieu pour toutes ces promesses. Et on veut te remettre tous nos fardeaux, tous nos pourquoi, te remettre nos vies dans l'ensemble, notre Dieu, et car toi, tu es suffisant à toutes choses. Et on prie dans le nom de Jésus. Amen.